vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 128, les crêpes de l'historien Serge Braun. Chers amis, bonjour. Ah là là, vous savez bien que de bon matin dans notre émission et son petit train-train, on essaye de parler de rien. Alors, rien comme dans historien. Non, non, alors aujourd'hui, ce n'est pas possible parce que notre invité, dont vous l'avez bien connu, est un personnage ayant mille facettes. C'est un chercheur spécialiste des biothérapies des maladies rares. Il est pharmacien, il est membre de l'Académie nationale de pharmacie, hein, c'est comme la Légion d'honneur des pharmaciens, et c'est aussi un écrivain, qui rime avec rien, mais c'est un écrivain. Alors je citerai tout à l'heure tous les titres de ses ouvrages. Bonjour Serge Braun.
Bonjour Ambroise.
Alors, vous savez que dans notre émission, on aime beaucoup la tarte au fromage, mais c'est quoi cette histoire de crêpes ?
Bah, le Téléthon, c'est pas seulement une émission de télévisée avec des dons qui sont réalisés sous couvert ensuite d'un événement médiatique avec des vedettes, des paillettes, mais c'est aussi et surtout, j'allais dire, des animations sur le terrain un peu partout en France et pratiquement un tiers de toutes les communes de France, du petit village à la grande ville, qui participent.
Alors, on vend des crêpes. Et c'est pour ça que vous avez mis le mot crêpe dans le livre. Alors, il faut quand même dire tout de suite, vous parlez du Téléthon. Vous avez été pendant 20 ans le directeur scientifique du Téléthon.
De l'AFM Téléthon, l'association qui organise le Téléthon.
AFM, ça veut dire Association
française contre les myopathies, voilà. C'est-à-dire les maladies musculaires. Mais en fait, au-delà des myopathies, c'est l'ensemble des maladies rares. Et les crêpes et les ballons, ça fait partie de ces animations sur le terrain. C'est-à-dire qu'on fait de tout. Du moment que les gens participent, font la fête, contribuent par ces animations et finalement à cette collecte de fonds, c'est 40% du Téléthon, c'est les animations sur le terrain, c'est les crêpes et les ballons.
Et alors c'est pour ça que vous avez intitulé votre livre « On peut changer le monde en vendant des crêpes et des ballons ».
Exactement. C'est-à-dire que les crêpes et les ballons rentrent dans les laboratoires et il en sort des médicaments. Voilà, ça c'est le Téléthon.
D'accord. Et si on fait une crêpe avec des médicaments, non, on peut faire...
C'est pas recommandé.
C'est pas recommandé.
Et c'est pas remboursé par la Sécurité sociale.
Donc, puisqu'on parle tout de suite du Téléthon, c'est beaucoup, beaucoup d'argent qui vient des individus, des gens qui vendent des crêpes.
Mais
et
oui.
Oui, c'est les petits ruisseaux qui font les
Exactement.
Grandes rivières. Hein.
La moyenne de dons, c'est aux alentours de 70 euros. Hein. Et c'est sans compter
par
sur...
Par association ou par personne ?
Non, par donateur. Par donateur. C'est à peu près la moyenne. Et on a grosso modo 1 million de donateurs. Et ensuite, il y a ces animations sur le terrain. Donc, les donateurs contribuent aussi via ça. Je disais, c'est 40%. Ça peut être 2 euros, 1 euro. C'est acheter une crêpe, c'est participer à un concert. Voilà, c'est le Téléthon. Et c'est ces petits ruisseaux qui font une rivière de, l'année dernière, plus de 95 millions d'euros et qui sont consacrés à la recherche, à la prise en charge des familles et des malades.
Mais c'est quand même une histoire de morale, d'éthique, parce que c'est pas à l'ensemble de la communauté, c'est-à-dire à l'État, avec nos impôts, de payer la recherche qui est liée à un vendeur de crêpes, c'est quand même...
Mais moi, j'appelle ça...
C'est même pas le prix d'un sous-marin nucléaire, je suppose.
Ah ben oui, mais je dis, grosso modo, pour mettre au point un médicament, ça coûte aussi cher que de mettre au point un avion. Donc finalement, le sous-marin nucléaire, c'est pas très loin. Mais moi, j'appelle ça de la démocratie sanitaire. C'est-à-dire que c'est chacun qui se prend en main. L'État ne peut pas tout faire. Il s'occupe de la collectivité. Mais quand on rentre sur les aspects individuels, ça, c'est une autre histoire. Les maladies rares, même si le terme ferait penser qu'elles ne sont pas fréquentes,
beaucoup.
En fait, c'est 3 millions de personnes en France. C'est des milliers de maladies. Et on ne peut pas s'occuper de chaque maladie.
Tout ce qui est rare et cher, non, ce n'est pas autre chose.
Oui. Mais ça nous est très cher.
Oui,
oui.
Voilà. Mais alors, si moi je donne 30 euros comme ça, au Téléthon, ce que je fais souvent, c'est rien alors.
Mais c'est énorme.
Ah bon?
Parce que, alors, de temps en temps, quand, vous savez, il y a le 36-37, hein, on peut appeler et faire un don. Et de temps en temps, on a des personnes qui s'excusent presque de ne pouvoir donner que quelques euros, 10 euros, 20 euros, et je vais vous raconter une anecdote après. Et je réponds toujours, mais c'est extrêmement précieux, c'est d'autant plus précieux, on est d'autant plus responsable de cet argent, qui doit être donc bien utilisé, qui va être ultérieurement transformé en médicaments, ça c'est très important. Et la petite anecdote, il y a une petite pile sur le bureau du directeur général de la FM Téléthon, il y a une petite pile de pièces jaunes, des pièces de quelques centimes. C'était un SDF qui a voulu, c'est tout ce qu'il avait sur le, c'est tout ce qu'il avait, il l'a donné au Téléthon.
Ah oui, c'est émouvant.
Ah, et ça, on n'y touche pas.
Ah oui. Mais en fait aussi, c'est parce que tout le monde a dans sa famille, plus ou moins proche, quelqu'un qui est touché par cette maladie, par ces maladies.
Oui. En fait, une personne sur 20 est porteuse d'une anomalie génétique. On ne le sait pas, mais c'est comme ça, ça fait partie de la nature. En fait, en réalité, chacun d'entre nous, on a peut-être une centaine de gènes, une centaine d'anomalies génétiques susceptibles de provoquer une maladie rare. Et donc, une personne sur 20 va finalement, à un moment donné dans sa vie, développer une maladie. Et sur 4-5 générations, c'est toutes les familles. C'est pas quelque chose qui est rare, c'est tout le monde. Toutes les familles, à un moment donné, vont être concernées. Simplement, c'est souvent des maladies qu'on ne voit pas ou qui tuent très tôt, parfois même avant la naissance.
Vous savez ce que racontait Coluche, hein, pour ramener beaucoup d'argent, juste avant de créer les restaurants du cœur, il dit « faut prendre l'argent là où il est ». Alors on se dit, ah ben, il faut piquer l'argent des riches. Hein. Bon, il n'y avait pas encore Zuckman, mais... Non, il faut prendre l'argent chez les pauvres. Ah bon? Oui, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de pauvres. Mais... voilà. Et donc chacun donne un petit peu, et c'est vrai que c'est comme ça que ça fait beaucoup... Oui, ça fait, fait un pognon de dingue, quoi.
Exactement, ce que disait un président de la République. Mais en fait,
il l'est toujours encore. Hein.
C'est vrai.
Même si on enregistre à l'avance cette émission. Oui. Donc oui, c'est.
Mais c'est les personnes les plus modestes qui sont les plus généreuses. Et ça, on le voit aussi. C'est-à-dire qu'on a un profil du donateur moyen entre guillemets. Hein. C'est plutôt une personne âgée, plutôt retraitée et plutôt une femme.
Alors, avant de parler de tous vos bouquins dans plein d'autres domaines, le Téléthon, ça rime aussi avec imagination. Alors, il y a les tireurs de cordes, il y a ceux qui jouent de la musique dans la rue, il y a de... alors, bon, c'est une idée comme ça, mais c'est une petite marotte. Bien sûr, vendre de la tarte au fromage, mais ça, c'est le gag qui est spécifique à notre chère émission. Mais également, par exemple, plus personne n'achète de voitures neuves pendant 2 ans. Et on garde nos vieilles voitures, on enlève le critère 18, là, qui empêche les gens de rouler. Et alors, bien sûr, les marchands de bagnoles, ils ne seront pas contents. Mais les voitures, bon, quand elles peuvent rouler 12 ans, elles peuvent rouler 14 ans. Et on donne la différence de la voiture neuve au Téléthon.
Et pourquoi pas
Mais, alors, quels sont les trucs les plus amusants ou anecdotiques qui ont ramené de l'argent?
Il y a des records. Hein. Alors, puisqu'on est en Alsace... et que je suis un petit peu chauvin, je vais parler de Dorlisheim, ça a eu lieu l'année dernière, c'était la plus longue tarte flambée du monde, c'était le record du monde de la tarte flambée, 46 mètres. Et donc ça a été, elle a été fabriquée...
Ça fait combien de tonnes de lardons?
Alors j'ai pas les chiffres en tête, mais ça doit être, je sais pas, on doit être pas loin de 100 kilos. Hein. Et donc c'est une tarte flambée qui a été ensuite débitée, puis revendue. Mais c'est en même temps un élément fédérateur, ça fait venir du monde, des gens qui vont ensuite contribuer, volontairement pas finalement.
Donc il y avait plein de fours et ils les ont collés bout à bout.
Non, c'était... Alors, j'étais pas sur place parce que moi j'étais sur Paris et ça me manque le terrain, ça je dois dire. Mais c'était en fait un système un peu comme un tunnel. On faisait passer dans ce tunnel la tarte flambée et c'était un four ouvert
aux
extrémités.
Sur une sorte de tapis roulant.
Voilà, et donc la tarte flambée passait dans ce tunnel se chauffait.
Les premiers morceaux étaient froids.
Alors, il fallait les manger au fur et à mesure.
Hein. Ah bon, d'accord.
Mais tout le monde y a contribué. Oui. Et le record du monde a donc été battu, ce qui était aussi l'objectif.
Homologué au Guinness.
Alors non. Ça, parce que ça, c'est très cher. Et
pour se faire homologuer.
Oui. Et oui, et donc, non, oui, et puis, l'objectif, c'est oui. que ça aille au Téléthon, donc on n'allait pas en plus...
Oui, en plus, vous embêtez. Oui, alors je disais que ça rime avec imagination, et ça rime aussi avec solidarisation, ça se dit pas, mais solidarité, quoi.
Oui,
c'est
oui.
ça qui crée le...
Oui, c'est un lien social, le Téléthon.
L'ambiance, voilà. Alors, Serge Braun, je vous ai nommé historien, vous l'êtes au sens noble du terme, puisque vous êtes un historien amateur.
Hein, votre vrai amateur dans le sens vrai du terme, c'est celui qui aime.
Qui aime, net. Vous aimez l'histoire, mais bon, vous êtes pharmacien aussi, hein, et vous êtes chercheur, vous avez travaillé au CNRS, hein, c'est ça c'est
Alors, le... j'ai travaillé à l'université.
Oui.
J'ai jamais voulu rentrer au CNRS ou à l'INSERM, parce que mon objectif, c'était mettre au point des médicaments. Donc, je me destinais à l'industrie. J'ai travaillé dans la biotech après, et avant de rejoindre l'AFM pendant les 20 dernières années.
D'accord. Bon, vous êtes une grosse tête scientifique, quoi.
Non,
mais
je suis
sympa.
Je suis
non, pas, non.
Non, non, enfin, vous je avez suis un scientifique.
Vous avez l'air, vraiment, oui, vous avez l'air d'un étudiant, finalement, un petit peu...
Ben, j'apprends tous les jours.
Ah, bah oui. Bah, oui
j'apprends tous les jours.
Mais en fait...
Ah non, voilà. Mais c'est vrai.
Donc, alors, je vais quand même citer deux de vos romans, et alors vous avez précisé romans scientifiques.
Oui.
Hein, comme ça. Alors, Le syndrome de Babel... Bon, Babel, on comprend, mais le syndrome, d'accord, et le pacte d'Atropos.
Oui.
Alors, j'ignore Atropos.
Alors, Atropos, c'est l'une des trois parcs. Il y a celle qui tisse le fil de la vie, il y a celle qui tire le fil de la vie, et il y a celle qui coupe le fil de la vie, c'est Atropos. Ça a donné d'ailleurs le nom à un poison, l'atropine.
Ah oui.
Et donc ça,
et non c'est pas apostrophe qui nous ramène à quelque chose de plus littéraire, mais c'est
oui.
une mauvaise astuce et une mauvaise digression. Donc on reprend. Donc vous avez écrit et deux romans
scientifiques.
Oui. C'est des polars finalement.
Oui, c'est des polars. Et en fait, l'objectif, c'est d'expliquer la science de manière vraiment pas rébarbative. C'est de faire entrer le lecteur dans une histoire. Et au passage, ça lui permet d'apprendre des choses sur la biologie, sur notre fonctionnement, sur la génétique. Et en l'occurrence, le pacte d'Atropos, le sujet, c'est la mort est nécessaire à la vie. Il faut mourir pour perpétuer la vie. Et donc, en l'occurrence, c'est une histoire entre un criminel et un enquêteur. Et ça me permet, beaucoup de digressions, mais au travers de l'histoire, d'expliquer qu'il faut mourir pour vivre.
Oui.
Il faut mourir.
Voilà. Vous devriez porter une lavalière et vous auriez le même... succès de vulgarisation que Cédric Villani, hein, c'est un petit peu...
La vulgarisation, c'est presque, j'allais dire, c'est 90% de mon activité, c'est aussi d'expliquer des choses compliquées aux familles, aux enfants, aux donateurs, voilà, et finalement, pourquoi pas le faire au travers d'histoires. Et en plus, de faire entrer l'histoire dans ces ouvrages, parce qu'il y a toujours un aspect historique dans ces ouvrages.
Oui.
Donc, je pense que si je n'avais pas fait de la biologie, j'aurais été probablement un prof d'histoire. Je me serais intéressé à l'histoire de toute façon.
Mais c'est toujours, en feuilletant vos livres, on a l'impression qu'il y a plein de paradoxes. Par exemple, je ne sais plus où j'avais lu ça, mais pas chez vous. Avec un arbre, on peut faire 1 million d'allumettes. Mais avec une allumette, on peut brûler 1 million d'arbres. Voilà.
Oui, ça, c'est
donc
vrai.
Ça veut dire, c'est la vie, la mort.
Mais oui, et de dire qu'il faut mourir pour perpétuer la vie, c'est un paradoxe.
Oui.
C'est tout à fait un paradoxe, mais pourtant c'est nécessaire. Et évidemment, dans le livre, j'ai plein d'exemples. Mais imaginez, les champions de l'évolution, ce sont les bactéries. C'est ce qui fait que même avec notre intelligence, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Il y a maintenant des populations de bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques, etc.
Ce qui n'était pas le cas avant.
Non, ce qui n'était pas le cas avant.
Donc Pasteur, enfin lui, c'est pas les bactéries, c'est...
Si, c'est aussi les bactéries.
C'est aussi les bactéries.
Ah, oui.
D'ailleurs, on disait, parce qu'avant Pasteur, on ne se lavait pas les mains, enfin à peu près, donc on savait pas que les microbes existaient.
Exactement, on parlait de génération spontanée, et lui, au travers d'expériences que je n'ai pas le temps de décrire, mais qui sont extraordinaires d'ailleurs, a démontré que ça n'existe pas, la génération spontanée. Il y a toujours quelque chose qui existe, qu'on ne voit pas. Et c'est comme ça qu'il a démontré l'existence des bactéries,
digression,
des virus.
Vous savez que c'est le père de Flaubert, qui était chirurgien à Rouen, à l'Hôtel Dieu de Rouen, qui s'est aperçu que lorsqu'il passait d'une femme qui l'a couchée à l'autre et qu'il se lavait les mains entre les deux, il y avait moins de probabilité et de risque qu'elle meure. Donc, c'est-à-dire...
Oui.
Voilà.
Mais il y a même eu un médecin, je crois qu'il était autrichien, il est devenu fou parce que personne ne l'a cru. Et en fait, ça l'a rendu complètement fou. Il a complètement déraillé. Et il avait raison, alors qu'il avait raison. On tuait les femmes qui accouchaient en les contaminant. Et, oui. Et ça, lui, il n'a pas supporté.
Voilà. Alors, historien aussi, vous avez écrit une monographie dont le titre est « Le dernier testament ». Alors, ce n'est pas le premier et le second testament, c'est le dernier parce que c'est l'histoire de la communauté juive de Lauterbourg, oui. Dont vous êtes
originaire,
natif. Voilà. Bon, alors, je ne vais pas vous demander pourquoi, mais qu'est-ce que vous avez fait comme enquête pour raconter cette histoire?
Point de départ, c'était plutôt l'histoire familiale.
Oui.
Mon arrière-grand-père était un apatride qui est venu d'Allemagne et qui s'est installé à Lauterbourg. Et toute la famille, finalement, a pris racine à Lauterbourg. Et donc, j'ai voulu un peu retracer cette histoire-là. Et je me suis rendu compte de fil en aiguille que ça allait bien au-delà de ça. J'ai retracé l'histoire de toute la communauté. C'est une des plus anciennes communautés juives d'Alsace, peut-être la plus ancienne, parce que les juifs accompagnaient les armées romaines et s'établissaient près des camps romains. Il y avait un camp romain près de Lauterbourg, qui s'appelait Tribuni. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un livre qu'on pouvait écrire. Donc j'ai retracé l'histoire de cette communauté qui est emblématique de c'est un morceau d'histoire humaine. Et donc ça s'appelle le Dernier Testament parce que aujourd'hui, la dernière personne représentante de cette communauté qui a représenté plus de 15% de la population juive à Lauterbourg, c'est ma mère. Et après elle, cette communauté va s'éteindre. Et donc, j'ai écrit ce livre il y a 30 ans. Et finalement, moi qui me destine, et je l'ai fait, à mettre au point des médicaments, je pense que j'ai été autant utile que la mise au point de médicaments en écrivant ce livre.
Oui. Et qui a eu un impact important,
local.
Bon,
ah oui, ça c'est vrai. Et encore aujourd'hui, je reçois des messages de familles, de gens qui ont ensuite quitté l'Alsace, qui sont partis dans plein de pays, notamment aux États-Unis, qui ont besoin de savoir s'il y a telle personne parmi leurs ancêtres qui serait enterrée dans le cimetière juif de Lauterbourg, etc. Qui ont besoin d'informations et de temps en temps, on peut trouver des informations pour eux.
Alors, sur un sujet aussi important, à la fois pour le patrimoine de l'Alsace et ensuite pour le patrimoine général, culturel, et puis pour la communauté juive, comment se fait-il qu'aucun historien officiel, sans vous offenser, ne se soit pas intéressé à ce sujet?
Alors, il y a des livres qui ont été écrits sur les communautés, sur la communauté juive en Alsace. Il y en a eu. Il y en a quelques-uns, pas beaucoup, c'est vrai. Mais ce n'est pas facile aussi, parce qu'il y a peu d'archives, surtout qu'à l'époque, quand on remonte à avant la Révolution française, on a beaucoup de mal à trouver des éléments d'information, parce que toutes ces archives qui étaient au sein des communautés juives ont disparu. Donc, il y a très, très peu d'informations. C'est très, très compliqué. Mais moi, j'ai pu remonter jusqu'au XIIIe siècle, à peu près.
C'est quand même étonnant.
Oui.
Voilà. Et vous avez un petit peu inventé, comme on dit, pour faire plus loin?
Ah non. Ben, je suis scientifique. Donc,
j'essaie
d'être très rigoureux dans les informations que j'apporte.
J'ai cité Flaubert. Tout ce qu'on invente est vrai.
Oui. Oui. Mais tout ce qui est vrai dans ce que j'ai écrit n'est pas inventé.
Ah oui, non. Donc vous avez trouvé les traces, c'est un bouquin à la fin, il y a les sources, il y a les notes de bas de page et tout, voilà.
Mais et en général, je fais, quand j'écris, je réunis des recherches un peu historiques, je le fais valider par des historiens, ça aussi c'est le scientifique, c'est-à-dire que son travail, on le fait toujours valider par des pairs, donc par des experts, et qui le sont toujours.
C'est pas de la même façon, mais c'est pas mal.
Voilà, ils le sont toujours.
C'est rigolo, hein, les pairs, P-A-I-R-E. Oui. S, et l'expert, c'est...
Comme le père.
Comme le père.
Oui.
Voilà.
Et donc, je fais valider par des experts.
Et rien ne se perd. Bon, là, c'est nul.
Rien ne se crée.
Et rien ne se crée, oui. Mais
en un mot, peut-être.
Mais parfois, oui, on le sait pas.
Oui.
Voilà. Bon. Et puis là, maintenant, une autre histoire. Alors, toujours familiale, mais alors, elle est extraordinaire. Donc là, on pense vraiment qu'elle est inventée. Et le titre du livre, d'ailleurs, est provisoire, « Cette pierre sur laquelle on trébuche ». Alors, c'est l'histoire de deux frères, des Alsaciens, d'ici, hein, d'Alsace du Nord, Gaston et Jean-Pierre. L'un a survécu à Buchenwald et l'autre a fait partie des libérateurs de la première division de la France libre. Alors là, vous êtes parti de rien pour raconter cette histoire, parce que personne n'était au courant, enfin, ou personne n'avait pris conscience de cette histoire.
Je suis parti de rien, effectivement, parce que moi-même, je ne savais rien. Et ces deux frères...
Alors là, on est en plein dans le thème de notre émission, voilà. Et donc, ces deux frères...
Ces deux frères sont de ma famille. C'est des cousins de mon père. Et je reçois un jour un coup de fil d'une archiviste communale, qui s'appelle Nelly Kubel à Wissembourg, en perspective de la pose d'une pierre de la mémoire, une Stolperstein, donc en hommage à une personne qui a été déportée. Et ils recherchaient personnes en famille avec un certain Jean-Pierre Brown. Et donc j'ai confirmé qu'effectivement on était en famille, mais je ne savais rien sur lui. Je connaissais son nom, mais je ne l'ai jamais rencontré. Gaston, son frère, je le connaissais, je l'avais rencontré parce qu'il était très proche de mon père. Lui on avait quelques éléments sur sa vie, mais rien sur Jean-Pierre. Et donc, j'ai simplement cherché. Et au fur et à mesure que je tirais le fil historique de sa vie et de celle de son frère, je me suis rendu compte que c'était deux destins romanesques.
Oui. Alors, tous les deux avaient une vingtaine d'années pendant la guerre. Donc, vous dites que vous avez tiré le fil parce qu'il y avait quand même des archives... il y a des endroits, des personnes âgées qui pouvaient vous raconter tout ça. Parce que, oui. Alors, ces deux frères, c'est... Alors, je vais essayer de résumer. Hein. L'un, c'est une imposture. Hein. Grâce au fait qu'ils parlaient parfaitement l'allemand, ils avaient récupéré sur un soldat allemand une radio allemande, bon, lui, français, hein, dans l'armée française, et ils donnaient des ordres... à l'armée allemande pour tirer sur elle-même,
exactement.
Sur les autres Allemands. Donc ça, c'est le premier. Alors ça, vous allez nous le raconter parce que c'est jubilatoire. Et puis, l'autre histoire, alors ce sont les minuscules petits carnets, ou un seul carnet, hein, l'autre frère, lui c'est Jean-Pierre, hein, qu'il a bricolé et qu'il a réussi à garder pendant les marches de la mort, lorsqu'on évacuait les camps, et sur lequel il a raconté la vie quotidienne, ce qui est un truc rarissime. On n'a aucun document comme celui-là. Alors, parlons d'abord de Gaston.
Alors, Gaston était... quand il était tout petit, il voulait tirer sur les Allemands. Ça, c'est ce qu'il racontait à son père, qui lui disait « Mais tu sais, les Allemands aussi, ils savent tirer. » Et quand il est devenu jeune homme, il était réfugié en Haute-Vienne, comme beaucoup... Enfin, d'ailleurs, comme les Wissembourgeois, ils sont
tous... Pas...
Voilà, Odora, en Haute-Vienne.
De Wissembourg, oui.
Et il est devenu très vite résistant. Il est rentré dans la résistance. Il faisait passer des enfants juifs en Suisse. Mm-hmm. Et ensuite, il est rentré dans la première division de la France libre. Il a participé en particulier au débarquement de Provence. Et à Toulon, comme lui, c'était quelqu'un qui était passionné par les radios. Il bricolait les radios et donc il a été dans les transmissions. Il réparait les postes radio. On lui amène un poste radio d'un artilleur allemand qui avait été tué. Il le répare, il se branche sur la fréquence de la Wehrmacht, et comme il parlait très bien l'allemand, il donnait des coordonnées de tir aux bombardiers français sur les artilleurs allemands, et ensuite il a commencé à donner des coordonnées aux artilleurs allemands de tir, ce qui fait qu'ils se tiraient les uns sur les autres, les artilleurs allemands. Et ensuite il a fait... Alors,
dans un film, on ne le croirait pas.
Ah, mais oui. Absolument, et il a fait quelque chose d'encore plus fou, c'est que le colonel Widmann, qui était le commandant de la place de Toulon, était dans un bunker pendant ce débarquement. Les communications passaient mal. Et donc, il a pris la place du colonel Widmann, a donné l'ordre aux artilleurs allemands de saborder leur matériel, de saborder leur canon et de se rendre. Il a fait 1000 prisonniers à lui tout seul, sans tirer un coup de fusil. Et il a été décoré pour ça.
Bon, on est impatient de lire ce chapitre dans votre livre. Et alors, l'autre histoire, donc, c'est donc Jean-Pierre qui est arrêté, déporté. Et alors, bon, c'est toute une histoire, mais marches de la mort.
Alors, il a été déporté à Buchenwald. Et lui aussi, le fait qu'il connaissait très bien l'allemand, ça a beaucoup joué parce qu'il n'a pas eu à subir le pire, même s'il a subi la faim, les tortures. Il a d'ailleurs failli être empoisonné parce qu'il avait aidé quelqu'un qui est devenu célèbre, qui s'appelle Stéphane Hessel, à s'évader. Et pour ça, il a été condamné à la pendaison. Mais finalement, il s'en est sorti. Mais pendant sa période de captivité, il a écrit... il écrivait à sa fiancée. Alors évidemment, c'était des lettres fictives, hein. C'était pour lui permettre de tenir. Et ce petit carnet, qui fait 50 feuillets, c'était un journal, en fait, qui permet de renseigner sur les conditions de détention à Buchenwald et dans ses camps annexes. Et il a continué d'écrire pendant les marches de la mort. Et j'ai quelques feuillets qui m'ont été transmis par sa fille, qui est une dame retraitée dans le sud de la France. Et elle n'arrivait pas à lire, parce que alors là, par contre, c'était très, très mal écrit. Autant l'écriture était très ronde, très fine, pendant sa période de captivité, autant là, ces petits feuillets, c'était très difficile à lire. Et je me suis rendu compte, en les déchiffrant, qu'il continuait d'écrire pendant les marches de la mort. Et donc, on a ces étapes, différentes étapes, quelques événements pendant les marches de la mort.
Et vous avez déchiffré ou décrypté ces... ces carnets.
Oui,
et ça... Indignez-vous, hein, disait Stéphane Hessel.
Exactement, hein, voilà, c'était son petit livre.
Et ouais. Ces livres, donc c'est minuscule, hein, écrit, alors il n'avait même pas d'encre.
C'était au crayon. C'était au crayon.
Sur voilà. Est-ce qu'on sent une indignation sans...
C'est très retenu. C'est quelqu'un qui était plein d'empathie. Mais alors par contre, évidemment... Son but, c'était de résister, donc il faisait des mots croisés, il avait des jeux intellectuels pour essayer de s'évader.
Ouais. Jean Samuel raconte la même chose, il était avec un mathématicien, lui qui ne connaissait rien en maths, qui leur a expliqué le théorème de Fermat, qui est un truc, voilà,
ouais.
Et c'est grâce à ça qu'ils ont survécu, parce qu'ils avaient envie de savoir...
Et lui, il parlait littérature, citait Vigny, etc. Enfin, ouais. c'est extraordinaire.
Alors, ils ont croisé 100 fois la mort, et ils ont dû leur survie à des centaines de petits riens.
Exactement, c'est des petits riens. Eux-mêmes étaient considérés comme des riens, mais pourtant...
Oui, des stucs.
Des stucs, voilà, des pièces.
Des pièces.
Et finalement, il s'en est sorti. Et ce qui, pour moi, est aussi très fort... C'est qu'à la suite, parce qu'il s'en est sorti, il est revenu des marches de la mort, il a consacré sa vie au rapprochement franco-allemand. Et il a été décoré pour ça, par les Allemands, dans les années 80. Donc beaucoup
et par les Français ensuite.
Alors aussi. Non, pas du tout.
République reconnaissante, non.
Oui, c'est ce que disait sa femme. Finalement, les Allemands ont davantage de reconnaissance que les Français.
C'était peut-être la culpabilité aussi.
Bon. Difficile à dire. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'un des deux frères a été décoré pour son combat pour la liberté, et Jean-Pierre pour son combat pour la paix.
Formidable. C'était l'épisode numéro 128, Les crêpes de l'historien Serge Braun. Alors, on attend votre livre sur les deux frères avec impatience. Vous avez une idée, une autre idée pour un titre ?
Alors, c'est dur de trouver un titre. Alors, j'en ai un, c'est La pierre et le carnet, on verra.
Bon, voilà. Alors, la semaine prochaine, dans notre émission, vous l'avez bien connu, nous recevrons Bernard Genaste, un gentleman que l'on connaît bien à Schiltigheim. C'est un monsieur qui a pour couleur bleu-blanc-rouge, c'est son écharpe d'adjoint au maire, et il est prof d'allemand. Et c'est normal, puisqu'il est né en Guadeloupe. Hein. Vous l'avez bien connu, tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi, à la technique Thomas Marinelli, et mon nom est Ambroise Perrin.